Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
All right, je sais pas c'était quoi ça, mais en tout cas, c'était spécial, hein? Vous êtes de retour sur les ondes de CFAQ. Excusez, je sais pas ce qui s'est passé, là. Fait que Gab, tu nous parles aujourd'hui de l'éthique de l'enfantement.
Oui, en fait... Oups, mon Dieu Seigneur, j'ai la misère avec mon micro. C'est ça, l'éthique de l'enfantement. En fait, j'avais envie de vous parler de ce sujet qui me touche pas tant, mais qui peut-être va toucher, vous toucher un jour, là, mesdames, autour de la table. C'est ça. En fait, j'ai eu une conférence, encore une fois, dans un de mes cours d'éthique que j'ai eu cet été. Et le cours, c'était, cours d'éthique en sciences de la vie, là, impertinent comme information. Puis, c'est une des conférences qui me rappelle que, justement, c'est important que je garde un esprit critique sur ce qui m'entoure, puis tout sur ce que je fais, puis pas de prendre pour acquis que, c'est la norme, ou comme, c'est correct parce que ça fonctionne comme ça, ou parce que le gouvernement dit ça, ou parce que telle personne dit ça, parce que si c'est c'est normal. Fait que c'est une des conférences qui, même si le sujet me touche peu, ça m'a quand même aidé à me rappeler que, OK, Gab, pense à deux fois quand tu fais tes affaires, tu sais, aie un regard critique sur les choses, puis j'espère que ça va vous influencer aussi à peut-être réfléchir, dépendamment des actions que vous allez entreprendre. Donc ça fait que moi, en fait, je vais un peu vous expliquer mon témoignage par rapport des dires de la conférencière qui était une conseillère en éthique, Geneviève Desgagnés, qui elle, en fait, travaille là-dedans, elle a fait un mémoire sur l'éthique de l'enfantement. Puis moi, je vais vous spotter un peu des points en particulier que je trouve intéressant, en fait, d'amener aujourd'hui. Donc, en fait, je vais parler plus précisément de médicalisation des naissances et de violence obstétricale et gynécologique en éthique de l'enfantement. Donc, si jamais j'utilise des mots un peu bizarres plus loin, vous pouvez m'arrêter, je vais expliquer. Mais ça. Normalement, ça devrait être comme quand même chill. Fait que mettons, vite de même, quand je dis médicalisation d'une naissance, c'est qu'en fait... En fait, je vais l'expliquer, vraiment, c'est littéralement le sujet de la chronique. mais ouais, c'est bon. Fait que mettons, je vais ça un peu, là, je vais essayer de faire une courte introduction sur l'histoire des naissances, comment que ça se passe et tout. Parler à peu près un peu des enjeux vraiment au niveau de la médicalisation et des violences. Et au final, des alternatives un peu par rapport à tout ça. Donc, si je commence un peu rapidement comme ça, l'historique, en fait, autrefois, les naissances étaient vraiment seulement délivrées par la femme, que fait par la femme, puis il n'y avait aucune assistance qui était vraiment là. En fait, là, c'était vraiment un moment pour la femme qui vivait par elle-même. Puis plus les époques ont avancé, plus le tout a passé, on s'est en allé vers une situation de contrôle. Un peu. On a voulu contrôler la chose, l'action, puis... pour comprendre comment ça fonctionne, puis essayer de limiter des choses qui peut-être n'avaient pas lieu à être limitées. Je m'explique un peu. On a commencé à utiliser le vocabulaire accoucher. Accoucher qui à l'origine n'était pas employé pour comme un accouchement. C'est pas quand tu te fais accoucher, c'est parce que tu es malade, en fait. Comme tu vas être accouché, t'es malade.
Ah, bah ouais.
Fait qu'en fait, c'est ça. Alors que maintenant, vu qu'on a comme essayé de transformer l'idée des naissances comme étant le fait d'être enceinte et d'accoucher comme étant une maladie, entre guillemets, le mot a comme collé. Ouais, c'est ça, j'y reviens là, tout ça. On a fini par remplacer l'aide des sages-femmes par des hommes médecins. Encore une fois, c'est comme la vision de l'accouchement était vue comme étant une maladie, une pathologie qu'il fallait soigner, qu'il fallait comme limiter les dommages, alors qu'en réalité, c'est tout autre, là, on va se le dire. C'est ça. Donc, en fait, on va intégrer un peu au fur et à mesure des années la peur au niveau des naissances, peur pour le bébé, peur pour la mère, que oui, je d'accord, tout ce que je dis, encore une fois, c'est ma vision des choses, puis comme c'est pas... chacun va le considérer comme il le ressent. Là. Moi, je fais juste comme réexpliquer un peu la conférence, mais et oui, il y a une peur pour les bébés, puis pour la mère, évidemment, on veut que tout se passe bien, ça c'est ça, là, je l'enlève pas, mais en tout cas, on va voir avec ce qui va suivre. Puis c'est ça, on va considérer un peu plus le corps de la femme comme étant non autonome, malade, puis qu'elle a besoin d'aide. Là, je pose dans l'extrême, dans le sens que justement, il va y avoir une équipe au complet qui va être autour de la femme pour l'assister, mais au final, en agissant comme ça, on va seulement considérer le ressenti physique et mécanique de la personne et non toucher un peu plus au côté émotionnel et moral, tout ce qui est un peu, c'est quoi ses intentions, c'est qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Est-ce qu'elle veut vraiment qu'on soit une équipe de comme 6 autour d'elle à essayer de gérer des choses que peut-être pourraient être faites autrement pour qu'elle apprécie un petit peu plus son moment? Je pense que oui. Autour du 20e siècle, on commence à voir ça un peu comme une activité économique. Je mets des gros guillemets encore une fois. On va sensibiliser le fait de donner des naissances à l'hôpital plus fortement. Toute autre façon, en fait. Là. Puis là, encore aujourd'hui, c'est vraiment ça la
norme.
La norme, en quelque sorte. Puis là, il va comme avoir un paternalisme qui va se construire un peu autour de tout ça. Hiérarchie entre la femme, le médecin, une dévalorisation un peu du ressenti à certains niveaux. Mais une question se pose. Est-ce que la diminution des décès maternels et fœtales, est-ce que c'est réellement dû à la médicalisation des naissances, au fait qu'on est à l'hôpital, qu'on est encadré et tout, ou plutôt un contexte un peu d'hygiène au niveau de la naissance. Parce que si on se compare un peu à dans le temps que c'était, qu'il y avait comme des problèmes et tout, l'hygiène entrait quand même beaucoup en jeu. En tout cas, je laisse ça en suspens comme ça. Médicalisation des naissances, en particulier, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment comme, bon, je l'explique un peu au niveau de voir ça comme étant une pathologie qu'il faut soigner, il faut la médicaliser. On veut préserver la vie de la mère et du fœtus, ça c'est sûr, ça c'est comme de base, là, c'est prévu, mais pour arriver à ça, on passe par des méthodes qui sont peut-être un peu violentes, qui vont mener à la violence obstétricale et gynécologique, mais pas comme on le pense, en mode « je te frappe ou je te mal ». C'est comme plus caché que ça un peu. Là. Ouais. Donc là, si on va avoir une vision fixe, on va utiliser beaucoup de matériel, ça va être, en tout cas, ça va être très chargé pour la femme, en fait. Puis, comment que la conseillère l'abordait dans la conférence, c'était vraiment... Comment qu'on devrait considérer les naissances? On devrait plutôt les considérer comme un tout et non comme juste il y a un bébé à la fin de tout ça. T'sais. C'est vraiment pour que la femme puisse apprécier le moment puis vivre le moment complet de la grossesse. C'est pas juste en mode j'ai des problèmes, j'ai mal, ça va pas. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Violence obstétricale. Ben, mettons, jusqu'à maintenant, je sais pas, vos avis un peu. Comment vous voyez un peu où est-ce que je m'en vais? Là, comment que vous vous sentez par rapport à ça?
Mais du coup, par rapport. T'as dit qu'il y avait deux questions qui se posaient, de savoir si le fait qu'il y ait moins le taux de mortalité est diminué, est-ce que ça a un rapport avec la médicalisation? Je ne sais pas si ça a un rapport avec le fait d'être hospitalisé, mais je suis sûre que ça. Enfin, je pense, en tout cas, selon moi, que ça a un rapport quand même avec le fait qu'il y a de plus en plus de recherches et l'hygiène, enfin, même l'hygiène à l'hôpital, enfin, tu vois,
vis-à-vis des médecins.
Tu vois, il y a des améliorations au niveau de la médecine et tout ça, qui font que même si une femme accouche chez elle, parce qu'on ne peut pas dire accoucher, du coup, accoucher, c'est un...
Bah oui, tu peux dire, en fait, donner naissance.
Donne naissance chez elle, alors, et qu'elle a un médecin ou quelqu'un, en tout cas, qui sait comment s'occuper de ça, bah, ça va bien se passer.
Oui, bah oui, exactement.
Elle n'a pas besoin d'être à l'hôpital, je pense. Mm-hmm. Il faut juste qu'il y ait une ou deux personnes qui savent vraiment gérer ça, et enfin, en tout cas, des professionnels. Et pour moi, ça va aller, et ce n'est pas forcément à l'hôpital. Après, je pense que les gens vont à l'hôpital parce que c'est plus simple.
C'est rassurant aussi, je pense, pour la femme, de savoir qu'elle est entourée par une équipe de médecins.
Ouais, c'est ça. Bah, je pense que vu peut-être que ça a été diabolisé gros, peut-être par le passé, là, avant la médicalisation, là, que mon Dieu, tu sais, les gens, ils mouraient dans ce temps-là. Peut-être que à cette heure, on revoit un certain réconfort dans le fait d'enfanter à l'hôpital. Par contre, moi, ben, j'ai pas eu d'enfant, mais ma petite soeur a eu un enfant, elle n'a pas si longtemps. Si nous écoute, Vanessa, bonjour.
Coucou Vanessa.
Puis de ce qu'elle m'a parlé de son expérience personnelle, comme malheureusement beaucoup d'autres femmes, c'était très désagréable. On n'est pas loin de la charcuterie, là. C'est vraiment très violent. Tu sais, si le bébé ne passe pas, ils vont trouver une manière de le faire passer.
C'est toujours sans consentement, entre guillemets. Là. Ouais, c'est toujours, c'est ça, il y a un protocole.
Exact.
Je vais l'expliquer un peu, là, mais c'est ça, ça ne laisse pas vraiment le choix à la femme. Puis au final, il y en a beaucoup qui finissent maltraité en quelque sorte, puis qui passent pas une belle expérience. Puis au final, ils finissent avec des séquelles de tout ça. Donc c'est ça, encore une fois, la conseillère était vraiment là pour essayer de déconstruire un peu notre connaissance de comme « Ah, oh, je m'en vais à l'hôpital, c'est safe, je suis correct. » Mais non, là, il y a comme tout un jeu qui tourne autour de tout ça. Donc, j'ai remonté juste ici. En fait, donc la conseillère, elle a comme créé une définition un peu de la violence pour comment ça fonctionne au niveau obstétrique et gynécologique. En fait, c'est que la violence, comment elle peut se définir, c'est qu'elle peut être intentionnelle ou non. Donc, tu n'as pas besoin que quelqu'un veuille faire de la violence pour en faire, verbale, psychologique ou physique, par le fait d'un individu ou d'un système. On va rentrer dans la violence systémique et tout à ce niveau-là. Ouais. Et dans le but de limiter les libertés ou d'exercer un contrôle sur la personne. Puis encore une fois, on met l'emphase sur le non-intentionnel, parce que c'est pas parce que c'est pas volontaire que ça n'est pas le cas puis que la personne ne peut pas en souffrir. Plusieurs types, là. À ce niveau-là, la violence directe, là, c'est vraiment... on va intervenir tout type d'intervention, mais sans le consentement libre et éclairé de la femme au niveau de... quand on va donner naissance, avoir des commentaires désobligeants et tout. Encore une fois, c'est des choses qui sont discrètes, mais qui sont réelles, puis qu'au fond, la personne peut vraiment se sentir mal de tout ça. Indirect, tout ce qui... on va appliquer automatiquement un protocole, il y a de quoi qui arrive, OK, bang, 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 on y va, mais comme on n'a jamais consulté la personne, on n'a jamais vu c'est quoi les besoins directs de la femme. Et systémique, c'est croire que les femmes sont incapables de donner naissance par elles-mêmes, croire que leurs besoins doivent être subordonnés à ceux des professionnels. Encore une fois, il y a très longtemps, la femme, le corps est fait pour que la femme donne naissance, elle est capable de le faire par elle-même, dépendamment de certaines interventions. Puis oui, là, encore une fois, il y a des cas que justement, ça demande une intervention médicale, OK, go, 100%, mais c'est juste de comme relativiser un peu la chose, puis que peut-être dans tous les cas, c'est pas nécessaire d'avoir une aussi grosse équipe à ton chevet. Puis,
Non, okay. J'acquiesce.
Pas de stress. Ouais. Puis ben, en fait, je finissais ça un peu ben, comme mon point un peu en parlant, c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut réellement pour les naissances, comment que la conseillère l'amenait, c'est que, encore une fois, tout passe par la liberté de faire les choix et éclairer. Donc en fait, choisir d'accepter ou de refuser certaines interventions, ça devrait être mis de l'avant. Choisir le lieu de l'enfantement également, parce que c'est pas vrai que c'est juste à l'hôpital que c'est possible. Je vais vous parler aussi un peu des, ben, rapidement des centres de naissance. Je pense que c'est comme ça qu'on va le dire. Sinon, choisir les personnes qui sont présentes, choisir la position confortable pour donner naissance, parce que c'est pas vrai qu'il y a seulement la seule position sur le dos, les pattes dans les étriers pour que ça fonctionne. Puis à l'origine, c'était pas comme ça. Cette position-là date de Louis XIV, je crois, ou en tout cas dans le temps. Avant, c'était comme tu peux accoucher debout puis tout se passait bien. Puis c'est vraiment...
En fait, la meilleure position de ce que ma soeur me disait avant de donner naissance, justement, c'est que c'est beaucoup plus facile pour la femme de pousser adéquatement à quatre pattes, si je ne me trompe pas.
J'ai déjà vu
puis
ça.
Puis que pour des... Je pense que c'est pour des technicalités pour faciliter le travail du corps médical.
Oui, encore une fois, c'est ça. On s'assure que le corps médical est correct, mais la femme qui vit le moment, qui est dans le besoin, elle, on la laisse de côté, en quelque sorte.
C'est ça
que je trouve un peu comme préoccupant. Puis bon, évidemment qu'elle peut choisir les méthodes aussi qui vont être utilisées. Ce que je trouve un peu dommage, là, c'est qu'aujourd'hui... Les centres de naissance, au Québec, il y en a un par région administrative, je crois, d'après mes petites recherches rapides, puis je ne veux pas dire n'importe quoi.
C'est pas beaucoup.
Ce qui veut dire vraiment pas beaucoup, comparé aux hôpitaux. Puis, en fait, ça, c'est une réglementation. C'est le gouvernement qui impose ça, qui dit qu'ils doivent avoir un centre de naissance. Donc, en fait, quand je parlais d'influence systémique à devoir aller à donner naissance dans les hôpitaux, ça ne vient pas de nulle part. C'est un peu influencé, en quelque sorte, par le gouvernement. Vu qu'il y a des centres de naissance limités au Québec, ça fait en sorte que le choix n'est pas réellement là de nos femmes. Fait que même si tu as conscience de comment tu veux donner naissance, puis tu aimerais ça aller dans un centre de naissance, faut que tu prennes l'avance, là. Parce que c'est pas, ça demande des réservations, c'est selon le cas et tout, c'est très complexe. Mais par contre, l'expérience, je crois qu'elle en vaut la peine selon les témoignages qu'on a eus, que j'ai entendu dire aussi. C'est vraiment, tu sais, les gens sont là pour toi, ils font des rencontres, c'est comme, ils vont à ton rythme, selon tes besoins, selon ce que tu veux. C'est très, c'est tout l'inverse des hôpitaux, là. C'est vraiment, on bascule les besoins, puis on se concentre sur la personne, la femme en tant que telle, lui fait vivre le moment de c'est quoi être enceinte. Comprendre ses besoins, puis pas faire juste suivre un protocole qui est comme un peu... qui est violent envers elle. Puis la naissance va pas être... en tout cas, ça va pas être associé vraiment aux douleurs et tout, mais plus à des intensités au niveau de l'accouchement et tout ça. On va vraiment créer un autre univers autour de la femme pour que, justement, elle apprécie le fait de donner naissance. Puis encore une fois, c'est elle qui va tout choisir de A à Z comment ça va se dérouler. Puis c'est fou de penser que les centres de naissance, « Ah, mais là, c'est pas fiable. S'il arrive ça, là, qu'est-ce qui va se passer? On n'est pas à l'hôpital. » Déjà, sont équipés pour faire face à tout type de situation.
Ben ouais.
C'est juste dans les cas dramatiques de, mettons, je sais pas moi, il y aura un arrêt cardiaque, whatever. Là, après ça, ben, évidemment, il y aurait de la défibrillation et tout, whatever. Puis, ils sont en proximité d'hôpitaux en tant que tel au final. Donc, dans les cas les plus dramatiques qu'il y aurait, ils se rendent à l'hôpital à ce moment-là, mais c'est vraiment en dernier recours, puis ça arrive rarement. Là, c'est très, sinon, ils sont équipés, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, c'est vraiment, je pense, c'est ça. Là. En fait, je pense que ça conclut un peu ma petite histoire par rapport à tout ça, puis c'est de faire réaliser que c'est pas parce qu'on pense qu'aller à l'hôpital, c'est ce qu'il y a de mieux que pour nous, qu'au final, c'est la réalité. Mm-hmm. Peut-être qu'on aimerait se lever d'une autre façon. Puis, tu sais, je pense que la donner naissance, c'est tellement un moment. Parmi les grandes étapes de la vie que je considère, donner naissance, c'en est une. Je la vivrai jamais, mais tu sais, c'est comme tu donnes naissance à un être vivant qui va grandir, qui va avoir une vie, qui a une conscience, que tu vas avoir une connexion. Je pense que c'est justement de venir envelopper tout ça pour rendre ça harmonieux, que c'est.
Ça permet un meilleur départ, mais ça aussi, hein, parce que tu sais, il y en a gros qui sont traumatisés pendant longtemps, puis j'ai l'impression que tu sais, l'espèce de dépression postpartum, là, qu'il y en a gros que ça doit être un peu issu des conséquences de l'accouchement justement qu'ils ont eu dans les hôpitaux. Tu sais, déjà que hormonalement parlant, c'est difficile, c'est challengeant, tu sais. Mais il me semble que ce moment qui devrait être magique là et intense, oui, ça c'est sûr, qui pourrait être mieux géré là, mieux
Ben c'est ça, puis je trouvais ça tellement intéressant comme conférence là, puis genre j'étais comme si j'étais une femme puis j'avais à avoir des enfants, pour vrai, j'y penserais vraiment là, parce que on a vu un peu des vidéos aussi là, puis c'est vraiment on se concentre sur les besoins de la femme, c'est qu'est-ce qu'elle veut, comment elle veut accoucher, de quelle façon, puis ça va être elle qui va accoucher de A à Z un peu par elle-même là, parlez pas d'épidurale là, tu sais, c'est pas ben, je sais pas comment, en tout cas, bref, là. Mais tu sais, c'est vraiment le fait de vivre le moment, puis tu étais accompagné en fonction de ce qui. En tout cas, je trouvais ça vraiment beau, là, tout ce qu'elle nous a montré, tout ce qu'elle nous a appris par rapport à ça. Donc, si jamais, là, elle a un mémoire qui est super intéressant à lire, là, Docteur des... Pas docteur, je pense pas. C'était Geneviève Desgarniers, c'est ça. Ouais,
conseiller en éthique. C'est super intéressant. Franchement, c'est super intéressant. Et je pense... Les centres de naissance ont l'air d'être très, très, très bien. Mais je pense que ça serait quand même plus... Enfin, pour certaines personnes qui hésiteraient, parce que moi, en tout cas, dans mon cas, si je devais accoucher, j'y songerais peut-être. Mais je pense que ce qui me ferait hésiter, c'est vraiment qu'il n'y ait pas d'hôpitaux. Enfin, qu'il n'y ait pas d'hôpitaux, pardon, pas de médecin. S'il n'y a pas de médecin, je pense que ça va me faire douter parce que, enfin, je ne sais pas si vous le savez, hein, mais dans les hôpitaux en général, quand une femme noire accouche, elle a vraiment plus de chances de mourir qu'une femme blanche, de base. C'est vraiment des statistiques je ne les connais pas. Mais parce que déjà, il y a des médecins qui ne sont même pas. Enfin, il y a un truc, comment ça s'appelle, le syndrome méditerranéen, je pense.
Ouais, ils considèrent que la femme noire serait beaucoup plus apte à supporter la douleur que les femmes blanches.
Ouais.
Encore une fois, des petites idées de la colonisation qui restent encore ancrées aujourd'hui.
Ouais. Et ça fait qu'il y a beaucoup de femmes noires qui risquent leur vie, ne serait-ce qu'en accouchant, beaucoup plus que des femmes blanches. Et du coup, moi, ça me ferait vraiment hésiter d'aller, même si, enfin, pas forcément à l'hôpital, c'est pas l'hôpital le problème, c'est plus un professionnel de la santé qui saurait gérer au cas où j'étais en train de mourir.
Non, mais c'est bon, c'est important justement, quand on prend des décisions comme ça, de justement aller voir toutes les facettes de la médaille, puis comprendre pour avoir une décision éclairée. C'est juste que je pense que le but de la conférence, mettons, c'était de pas prendre pour acquis des choses, mais vraiment d'aller les réfléchir. Ouais. Fait, comme tu fais, toi, cette statistique-là qui te vient en tête, comme justement, déjà là, tu fais le processus de réflexion à savoir c'est quoi qui serait mieux pour moi là-dedans.
Moi, je suis frustrée pour vrai, genre, voyons donc, genre, c'est comme...
Mais c'est tellement triste. En fait, on se rend pas compte comment la colonisation a encore un impact aujourd'hui, même si elle n'existe plus, mais en tout cas les idéaux ils sont encore.
2023.
Parce que remarquez un peu les cours en santé médicale, généralement on étudie sur des peaux blanches et non pas sur des peaux noires.
Bah ouais.
Ouais, même les dermatos, si je vais chez un dermato blanc, bien sûr que il va m'aider pour certaines choses basiques, mais il y a des choses pour lesquelles il pourra pas m'aider parce que ça fonctionne pas forcément de la même manière pour quelqu'un qui a la peau claire et quelqu'un qui a la peau noire, en fait. C'est tout simplement ça. Et du coup, c'est compliqué. Je sais pas. C'est compliqué. On fait avec.
Ça
renforce.
Ouais, c'est ça. Mais tu devrais pas avoir. Moi, ça me pisse pour vrai. Là, je suis comme. Non.
Pour en revenir au sujet de Gabriel, parce qu'en vrai, ça mériterait une chronique d'ailleurs de Shandon, by the way.
Oui.
Ouais, c'est vrai.
Ouais. Sérieusement, c'est un sujet qui est quand même important. Moi, c'est un truc qui m'a choquée, c'était le point du mari, je sais pas si vous connaissez, après qu'une femme accouche, ça m'a révolté.
Ouais.
Donc en fait des fois on ouvre en fait, tu vois, en bas pour que le bébé sorte.
Pour que le bébé sorte, ouais.
Et donc quand le gynécologue recoue, il recoue genre un point en trop pour que le mari retrouve son plaisir.
Mais ça maintenant ça se fait plus, hein, genre on en a parlé. Ben en tout cas, je sais pas nous dans ce qu'on nous a dit là, ici ou je sais pas ailleurs, mais tu sais, je pense qu'elle avait déjà été témoin de justement où quelque chose comme ça là, le mari avait justement demandé. Puis là, le médecin, il a dit ben là, non.
Oui, pour resserrer le vagin, en fait, tout simplement. Et encore récemment en France, par exemple, il y a une femme qui en fait n'arrive même plus à s'asseoir. C'est dégueulasse. Pour, en fait, donc ça revient sur le sujet du paternalisme.
Ouais, paternalisme. Ça, c'est partout. Puis on s'en rend pas compte. C'est ça, c'est des choses
qu'on
se rend pas compte.
Alors que c'est quand même notre corps. C'est notre corps. Pourquoi fermer encore plus que ce que la nature ça va prendre du temps, mais ça reviendra comme avant.
C'est ça, en fait. Peut-être que ça n'existe plus, mais si c'était comme ça, c'était juste parce qu'on est dans une société à l'origine patriarcale. Et,
Mais malheureusement, ça existe encore, en fait.
J'ai dit si ça n'existe plus.
Si
ça n'existe plus. Parce que moi, je n'étais même pas au courant que ça existait, je ne connaissais pas.
Tellement...
Je ne connaissais pas.
OK! Fait que...
Joyeux.
Je vois le temps passer. Je ne sais pas si on a encore le temps de faire le petit quiz sur le Québec.
Alors,
c'est à votre tour,
guys,
amis.
On vous a préparé un quiz. Yes.
Oh mon Dieu, ça ne marchera pas. Je vais être mauvais.
Non. Normalement, les questions sont quand même assez simples. Donc, on va voir ça maintenant, tout de suite.
Let's go.
Donc, le premier,
shoot it.
Donc, la première question serait, quelle est la plus grande ville du Québec?
Ben là, c'est Montréal.
C'est Montréal, c'est ça, exactement.
Okay. On part facile, là.
C'est ça. Donc, pour la prochaine question, j'ai un petit problème technique, en fait, ici, mais j'ai une question ici. Quelle est la fête nationale du Québec célébrée le 24 juin de chaque année?
C'est la Saint-Jean-Baptiste.
Ah, mais vous êtes trop fort, en fait.
Évidemment, la Saint-Jean!
Voilà, on fait comment? Pour la prochaine
question... Désolé, il y a un petit délai.
OK, ça ira. Voilà. OK, un peu plus dur. Qui a chanté Le Petit Bonheur?
Ah! Je sais. Allez, ben, ça me dit, je veux dire, je connais la petite toune, mais comme.
Ben, je la connais même pas, moi, ça va bien.
Ben, t'as je fais, j'ai dit ça, mais comme t'as déjà connu, pas, mais ça, t'as déjà connu.
Petit bonheur,
c'est. Mais ça me dit quoi, mais.
Je vais vous donner, en fait, des propositions de. Donc, il y a Robert Charlebois, Gilles Vigneault, ok. André Fortin, Félix Leclerc.
Moi, je vais dire Gilles, juste parce que c'est le seul que je connais.
Moi, j'ai envie de dire Félix.
C'est Félix ou. T'as dit?
Gilles,
ok. Bah, la bonne réponse, c'est Félix.
Ah, je le savais, j'avais un feeling en plus. Fuck.
J'ai vraiment juste guessé, en vrai, j'ai aucune des scolatounes.
Un peu d'histoire. Que fut la rébellion des patriotes?
Oh, la rébellion des patriotes. Ça, c'est pas comme l'histoire, justement, là, des bûcherons là, dans le bois là, qui vont. J'ai comme un fragment d'histoire dans ma tête, mais je suis pas sûre que c'est.
Vous voulez les propositions de réponse?
Ouais, vas-y donc.
Okay, ouais. Donc, la rébellion de Canado-Français contre la couronne britannique. La rébellion générale de tous les Canadiens qui a mené à l'indépendance du pays. La rébellion d'anglophones du Québec contre le gouvernement du Québec. Ou la rébellion qui a mené à la séparation du Québec de la province d'Ontario.
Donc, déjà, c'est pas le dernier, c'est pas le deuxième.
Non.
Moi, je dirais le troisième. On dirait que le premier, je suis comme pas sûr.
C'est quoi déjà le premier?
Moi, je me rappelle.
La rébellion du Canada français contre la couronne britannique.
Ben, ah, oh, mais ça peut-être que ça a échoué, fait que ça a comme. Ouais. Moi, je dirais le premier ou le troisième, j'espère que c'est pas un des deux autres. Là, mais...
Ben, moi, je pense que c'est le premier.
Moi, je J'ai dit le troisième juste pour voir si c'est comme on touche.
Ok, donc la première réponse était la bonne. Donc Steph, tu as encore réussi. Donc c'est bien la rébellion du Canada français contre la couronne.
Même moi je le savais, Gabriel.
Oh mon dieu!
En fait, je le savais pas, mais c'était logique.
Ouais, mais je me rappelle même si c'est la troisième affirmation.
Comment surnomme-t-on la période de réforme modernisatrice du Québec des années 1960? La sortie de la noirceur, la révolution tranquille, le grand avancement ou l'avancée paisible?
Révolution tranquille.
Oh. Les autres noms étaient tous fake, en fait. Ouais.
C'est faux. Non,
c'est comme pardon.
C'est une blague.
La réponse était bonne?
Oui,
ouais. Ok, hop, oh, tout est là.
Non, c'était ça.
Ben là, c'est vrai.
Quel est le plus grand lac du Québec? Le lac Bienville, le lac Mistassini, le lac Minto, et le lac Saint-Jean.
Ah!
Je connais pas assez mes lacs. Moi, je connais les grands lacs du Canada, bah, mais je connais pas les lacs du Québec.
Saint-Jean, elle connaît la réponse.
Elle connaît la réponse parce que tu l'as regardée ou...
Non, vraiment. Parce qu'en fait, elle a juste choisi la réponse avant vous. C'est tout.
J'ai choisi.
Et la réponse est bonne. Donc les gars, flopez pas.
Allez.
Ben moi je vais dire
c'est honteux. On a gagné le quiz.
Moi je
vais
dire Mistassini, mais c'est ça. Je sais pas.
Oh.
Ouais, je dis ça. Mais clairement c'est pas ça. Arrête là.
C'est ça qui essaie de me mettre une mauvaise piste avec ses réactions. Mais moi je pense que c'est Saint-Jean. Pourquoi là?
Bon, c'est bon.
Oui.
La réponse est inévocable. Ok. Donc c'est le lac roulement de tambour.
Mistassini.
Out of pure luck, obviously.
Ouais, ben, mais tu sais, c'est le seul que je connaissais. J'étais comme, écoute, on va payer un jour.
Ah, ben crime. Quand même. Je connaissais au cœur. Okay.
C'est ton heure de gloire. C'est l'heure de gloire du lac Mistassini. Ouais.
Que veut dire frette? Une dernière. Que veut dire frette?
Frette?
Ah, ben, pas du tout. Très froid, bête ou gentil?
Très froid.
Ok, on va regarder ça. Et c'est très froid.
Oui, c'était ça.
C'est un petit peu trop facile.
Ouais,
ça.
C'est ce que je me suis dit aussi.
Attends. Une dernière. Attends.
Ah, on peut en faire encore une couple jusqu'à moins quart, là.
Ah, bon, ben.
Okay. Ouais, shoot.
Quel est le principal secteur agroalimentaire du Québec?
Le principal secteur agroalimentaire, laitier.
Moi aussi, j'aurais dit laitier, juste parce qu'on voit des pubs de lait tout le temps.
Ou porcin,
OK. D'accord. Oh, c'est bon.
Je préfère dire laitier.
Non, mais si vous avez raison, c'est bon. C'est bon.
C'est laitier?
Bon. Donc, le secteur laitier génère près de 30% des revenus agricoles du Québec.
Mon Dieu, il y a des pubs tout le temps, à tout bord, tout côté. Je suis comme, ça doit être ça.
Et quel est le sport du CF Montréal? Je donne pas de proposition parce que c'est facile, normalement.
Okay.
CF?
Ouais.
OK.
Le Canadien? Mais pourquoi CF? Je comprends pas la F.
CF.
Français,
bon, allez, des propositions alors. Hockey sur glace, football américain, football, baseball ou basketball?
Ok, sur classe.
Mais moi, c'est juste hockey, ouais, fait que je connais, fait que genre...
Ah ouais, c'est sûr, c'est hockey.
Non, c'est,
sûr,
c'est football, les gars.
Quand ouais. Tu dis
foot... Le club de foot 1 hein, du club de foot, c'est CF, club de foot.
Eh ben, mais non, ça, le foot, le soccer, c'est pas un vibe.
C'était vraiment misleading.
Qu'est-ce que la loi 101?
Ah, mon Dieu Seigneur, ils ont mis ça là-dedans.
Bon, ben, je vais te laisser répondre, gars, vu que tu dis en droit, parce qu'il y a pas...
En plus, j'ai eu un examen là-dessus, littéralement. Je sais pas si j'ai une bonne note, je me rappelle plus.
Non, il faut qu'on te donne des propositions.
Mais je sais pas comment. Ouais, ben allez-y, mais comme. Allez, j'ai l'air stupide à demander des propositions.
T'es en droit, c'est honteux, mais bon, je vais te les donner quand même.
Parce que je veux dire les bons termes, je veux pas dire n'importe quoi au micro, tu comprends?
Ouais, je vois. La Constitution du Québec, la Charte de la laïcité, la Charte de la langue française ou la loi qui a institué une citoyenneté particulière.
La Charte
Québec.
De la langue française.
Ouais, française.
Yep.
Tu vois, c'est pas ça que j'aurais dit. Ben, je veux dire, j'aurais expliqué oui, ça, mais j'aurais pas dit la okay, j'aurais pas dit le terme.
Je sais pas si c'est pas... Ah, ben, regardez, je vous montre l'église.
Ah, c'est la laïcité.
Regardez cette église.
Ouais, c'est.
La laïcité. Ah, mon.
Quelle église c'est? Tu l'as vu?
Ben, là, je réfléchis. Là. Attends,
personne va voir. Je peux-tu. Une église, je sais pas, il y en a des tonnes d'églises au Québec.
Ouais, non, mais attends, je vais rapprocher le zoom. Je quitte le micro.
Bon.
J'aurais dit la basilique Saint-Anne, parce que c'est la seule grosse église que je connais, mais c'est dans le coin de Québec, puis je pense pas que c'est celle-là.
Je vous donne des propositions. Ouais. La Trinité, Saint-Sixte, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vincent-Pierre en Mauricie.
Saint-Vincent-Pierre.
Okay. Ah, ok, c'était tous tes choix, ça.
Oui. Ouais.
Oh, c'était un choix.
La Trinité, ouais. Saint-Sixte, Saint-Vincent-de-Paul ou Saint-Pierre en Mauricie.
Elle je dirais Saint-Pierre aussi en Mauricie. Là.
Non, les amis, c'est Saint-Vincent-de-Paul.
Ah, bon.
OK.
Ma connaissance religieuse n'est pas...
Oh, oui, une petite dernière.
Une dernière, ouais.
Quel est le nom populaire de la fête nationale du Québec?
Oh, mais c'est facile. Bon,
c'était pas la Saint-Jean, quoi?
La fête du Québec? Non?
Ah, bah non, les gars. La proposition de réponse, ce sera l'apothéose de la nation québécoise, la fête de Saint-Jean-Baptiste.
Bah oui, c'est ça. On l'a fait tantôt.
C'est ça?
Ouais.
Ah, Saint-Jean.
Oui, je pense que c'est OK. Oui, c'est vrai. Okay. Bon, allez, la dernière, la vraie dernière. Allez.
Okay. Bon, regardez un peu cette image, les gars, et vous devez deviner la ville. Oh. Vous la voyez?
Non, on doit deviner la ville.
Devinez la ville.
Ok, je me rapproche.
Tabarouette.
Désolé. Je vais pas essayer de deviner.
Franchement, pour l'instant, ils sont bons, hein, guys. Donc,
au début, c'était la catastrophe.
Bah, déjà, c'est pas une grande ville. Ben, peut-être que oui, mais genre, ça doit être en Saskatchewan, en Manitoba ou en Alberta.
On va
ça,
vous donner sûr. Les propositions de réponse.
Québec, Sherbrooke, Gatineau ou Laval?
Gatineau!
Mais non, ah ben oui, ben attends, c'est pas Laval, c'est non. Pas Sherbrooke, clairement pas.
Québec, c'est je
pas
pense
Québec,
pas.
Non, non, c'est pas Québec, c'était non, j'aurais
su. C'est Gatineau.
C'est Gatineau.
Oui, c'est ça, bravo! Yeah.
Elle avait l'air facile aussi.
Alright!
Ben sans nous avoir dit les choix, j'aurais pas su.
Bon, on est pas super, fait que ça va être à nous de vous quizer la semaine prochaine, nos amis les Belges. Donc on part pour une petite pause, puis oui, c'est vrai, dans deux semaines, la semaine prochaine, t'en relâches.
Yeah. Mm-hmm.
Donc on vous revient après un petit spot.